rigolonne, elle dit autoconsommation intelligente. Même plus sur l'autoconsommation, sur l'autoconsommation intelligente. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le kilowattheure électrique, il est extrêmement feignant. Il gigote, il va à l'endroit où on consomme le plus proche. Parce qu'il a pas envie de faire pas de plus. C'est pas un flux d'eau. Donc, autoconsommation, importe la totalité, peu importe, c'est un choix de rémunération. Comment est-ce que je rémunère le kilowattheure produit? Cette courbe, elle est indispensable. Elle est indispensable pour vous montrer que la courbe de consommation dans le foyer habituel, c'est pas un foyer chauffé électrique qu'on aime hiver. C'est enlever le chauffage parce que c'est trop large. Quand est-ce qu'on consomme? Le matin quand on fait son café, le soir quand on fait sa tartiflette. Quand est-ce qu'on produit? La journée. Donc, en France, la production et la consommation dans le résidentiel ne sont absolument pas en phase. À quelques exceptions près. Vous avez une piscine, vous avez un aquarium tropicalisé, vous avez un climatiseur, vous avez investi dans des équipements qui sont vraiment contraires au principe de transition énergétique, donc vous ne nous intéressez pas. Mais le photovoltaïque pourrait couvrir votre production, votre consommation.
Une domotique hyper bien programmée.
Voilà. Mais dans ces contextes-là, le photovoltaïque pourrait vous permettre d'effacer l'équivalent de votre consommation. Mais c'est une clientèle assez spécifique qui, en général, a pas mal d'argent. Donc, les installateurs, vous pouvez tout à fait aller vers chez eux. Autoconsommation, c'est la production autoconsommée sur le site, divisée par la production totale. Dans cet exemple, on a une autoconsommation relativement bas. L'autoproduction, c'est la production autoconsommée sur le site divisée par la consommation totale. Donc c'est cette partie divisée par ça. Donc, ça ne veut pas du tout les mêmes rapports. Donc, c'est une nuance dans les mots, mais quand vous discutez avec quelqu'un, vérifiez bien de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Et le taux de couverture, c'est la production totale divisée par la consommation totale. Le taux de couverture, c'est quand on cherche à faire un équilibre sur l'année. Et on estime que c'est pas grave si c'est pas moi qui consomme ma kilowattheure parce que ça ira chez mon voisin ou mon voisin d'à côté et je cherche à être cohérent sur une année globale. C'est là où on cherche le taux de couverture qui s'approche de 100% ou voire plus. Alors. Pardon? C'est un mécanisme de rémunération. Résidentiel, maison en milieu, tout électrique, c'est encore pire. Hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a écrit que... Donc, le rouge, c'est la consommation. Le bleu, c'est la production. PV. Et le vert, c'est une installation PV qui est dimensionnée pour être 100% autoconsommée. Donc, sur cette maison, une installation PV de 9,2 kW qui permet un taux de couverture annuel de 85%, c'est plutôt respectable. On pourrait le faire. Les maisons individuelles ont souvent cette surface disponible. Mais si on cherche à avoir un taux une installation en autoconsommation totale 100% sans jamais injecter, on serait limité à 500 watts. Alors, quand on est une collectivité qui s'engage dans une démarche de territoire à énergie positive, il faut se poser la question. J'ai un objectif, je veux développer 1 MW sur mon territoire. Ça peut être une installation de 500 kg sur les zones commerciales. Les autres 500 kW crête, comment est-ce que je les fais? J'ai fait 1 de 100 kg sur la gymnase, un reste 400 kW crête, je peux faire 10 de 4 kW.
40 de 10.
100 de 4. Je pensais plutôt à taille 100 de 4. Mais si je me limite à l'autoconsommation totale, j'en fais combien? Je passe à 400 watts par litre. J'en fais plus 100. J'en fais 1000. Mobiliser 1000 personnes, c'est beaucoup plus compliqué que de mobiliser 100. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dans une démarche collective, l'investissement dans le photovoltaïque, oui, ça répond à des attentes individuelles, une envie individuelle de trouver une certaine autonomie, une certaine cohérence de mode de vie. Mais on n'est pas tout seul sur cette planète dans nos territoires. On est en constante interaction et pousser trop loin dans l'individuel, l'indépendance, c'est au détriment du collectif. Et moi, j'ai envie de dire, on est dans un bateau ensemble ici. L'autoconsommation totale dans le secteur résidentiel, pour nous, c'est une erreur. Et c'est les courbes de production et de consommation qui montrent très clairement pourquoi en France ça ne marche pas. Je dis bien en France, et si vous n'avez pas de piscine, aquarium, tropicalisé, climatisation.
En même temps, c'est une installation de 500 watts, c'est peut-être une installation hyper simple. Enfin, un petit panneau, c'est pas grand-chose. Est-ce que c'est pas plus facile finalement de tous les appareils, tout facile à installer, il n'y a pas de contrat compliqué, machin, puisque...
Alors, attendez, je regarde si je reviens sur ce sujet. Il n'y a pas
de question financière à revendre au réseau et tout. Donc, vendre, c'est très facile de mobiliser plein de gens et facilement d'installer cet appareil, quoi.
C'est vrai, mais...
Dans un objectif de développement...
Vous mobilisez 1000 personnes ou vous mobilisez 100 personnes? C'est déjà difficile de mobiliser 100 personnes. Attention, je termine. C'est quoi le taux de crédit à la consommation pour les 400 banquiers aujourd'hui? Sophie c'est Sophie Dix et autres, mais faites ça bon. Pour votre investissement. 2%. Autant dire, presque rien. Vous prenez un crédit à la consommation sur 15 ans pour financer 7 000 € de l'investissement et vous payez 1 000 € cash. L'installation de 500 watts, elle coûte combien? 1 000 € cash. C'est le même cash. D'un côté, on a 500 watts, de l'autre côté, on a 3 kilos à créer pour le même cash. Environnementalement, lequel fait plus sens? Et c'est ça le problème. Le 500 kW, s'il était à 200 €, c'est le même argumentaire. Mais en termes de capacité de mobiliser le financement, vu les taux de crédit qui sont très bas, vu le fait qu'il y ait les banques qui suivent derrière, vu le fait qu'il y a une installation de 3 kW de crête, 8 000 €, du bon matériel européen, cette évidence pour dire on peut faire une petite installation, 500 watts ou 1 kW, pas cher, il n'y est plus là.
Oui, mais ça, c'est un argument lié au contexte économique et bancaire.
Mais c'est pour ça que je...
Pourquoi on ne pourrait pas emprunter 1 000 € pour faire une installation de 500 mètres?
Ah, mais un peu, mais si c'est sans capacité, si c'est la seule capacité de mobilisation de financement qu'on a, il vaut mieux faire ça que rien. Mais beaucoup de gens qui investissent dans le photovoltaïque n'ont pas de mal à aller emprunter à 2,5%. Sur quelque chose qui va se rentabiliser sur 15 ans. Le montage économique, il y fonctionne et l'investissement en capital au départ, pour les deux, elle est le même. La différence, c'est que dans un cas, on va produire 6 fois plus de kilowattheures. On va avoir un impact positif sur notre engagement dans la transition énergétique 6 fois supérieur. Et à la fin du contrat d'achat, parce qu'on part sur une vente, on a un outil de production qui va pouvoir m'alimenter moi et mes voisins. Et les voisins d'à côté, et peut-être dans 20 ans, on aura des méthodes de stockage autres qui feront que ça compensera toute ma pollution.
Mais ça, mon tour, sur une petite installation des moins longs, on se pose. Alors, sauf parce que justement, il y a des aides pour faire des pauses, autrement.
Non, revenez ici, revenez à cette courbe.
C'est parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a des tarifs d'achat différents.
Non. Ça, 1 kW de crête. Quand est-ce que le soleil. Quand est-ce que le photovoltaïque produit. Un maximum.
Si je reste dans la zone.
Non, attendez. Quand est-ce que le photovoltaïque produit le maximum? Les dimanches de juillet et d'août. Où est-ce que vous êtes les dimanches de juillet et d'août? Qu'est-ce que vous consommez chez vous les dimanches de juillet et d'août? Moi, je suis en vacances. Je ne consomme rien. J'ai débranché mon frigo, j'ai pas de VMC. Je ne consomme strictement rien. Donc, cette production de ces 500 watts sur ma maison, elle est perdue parce que je ne consomme rien. De toute façon, j'ai pas de temps, j'ai un frigo que je débranche. Mais même un frigo, il tourne pas en permanence.
Pas la campagne. Ici, je pense que le mode de vie des gens, ça vaudrait quand même
une manière différente.
Parce que d'une part, les gens partent moins pour
vacances. Tout à fait. Je suis bien d'accord.
Résidence secondaire qui arrive.
Je suis bien d'accord avec ça. Mais
les gens ont des congélateurs, ont tout un tas de
choses. Mais le congélateur, il rarement 500 watts toute la journée en continu, sinon il est en panne.
Est-ce qu'on peut pas imaginer, est-ce qu'on peut pas imaginer quand même des solutions? Moi, je vois par rapport à l'état des transformateurs, la capacité d'injection sur le réseau aujourd'hui.
Ça, c'est un autre
sujet. Ici, en Ardèche. Non, mais ici, on a plein d'endroits où on n'a pas pu mettre de.
Oui, oui.
De
non, mais on va y revenir. Pour l'instant, je vous parle des modèles.
Trop cher de changer de réseau.
Voilà. Oui. Ça, c'est un autre sujet. On va y revenir. Pour l'instant, on est sur les modèles de rémunération des kilowattheures produits. Et vous avez. C'est dans trois transparents plus loin.
Et du coup, pourquoi on a dimensionné le tarif à 3 kW près?
Alors, voilà. Vous voulez un leçon d'histoire?
Voilà,
qui est les fautifs? Est-ce que c'est fautif ou est-ce que c'est bien?
Ça fait depuis 2006 qu'il existe. On a calé ça à 3 kg, alors que chez Espoo, on sait très bien qu'on a une autoconsommation totale.
C'est 3 kW près. Alors, c'est quoi la consommation moyenne d'un foyer français hors chauffage, hors eau chaude? C'est quoi? 3005. Il y a 10 ans, c'était 3000. 3000, c'est la production moyenne d'une installation photovoltaïque de 3 kW crête en France. Cette 3 kW crête, elle vient d'une demande de la région Rhône-Alpes auprès d'Espul de dimensionner une taille d'installation moyenne sur un foyer qui sera le reflet d'une recherche d'un taux de couverture 100% pour les usages non chaleur de l'électricité. L'État là a compris cette raisonnement et a choisi 3 kW crête comme le seuil de non-fiscalisation de la recette et un seuil d'éligibilité au taux de TVA réduite. C'est pour ça qu'il y a un seuil de 3 kW. C'est la non-fiscalisation du taux de TVA réduite. C'est lié à cette notion de chercher à couvrir 100% des usages spécifiques de l'électricité. Donc on est responsable. Aujourd'hui, on se dit, on peut plus dire un peu plus, mais environnementalement, elle fait vraiment sens. Elle faisait beaucoup plus sens à l'époque où on espérait un très fort développement du solaire thermique, qu'on puisse donc enlever les 1500 heures du cumulus électrique, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, donc, en tout cas, là, on parle de modèle de rémunération, c'était pour vous montrer que se dire que tous les kilowattheures que je produis, les rémunérer tous par la consommation évitée, qui est le principe de l'autoconsommation, ça ne fonctionne pas dès qu'on dépasse une certaine taille d'installation. Même 500 watts, dans beaucoup de zones, c'est trop important parce qu'on ne va pas pouvoir rémunérer toutes les kilowattheures produites. 3 kW crête, n'en parlons pas. Une installation de 3 kW crête, c'est quasiment impossible sans un pilotage et un stockage d'autoconsommer la totalité. Chez un particulier, je dis encore, sauf exception. Il y a des pays où ça fonctionne. Hein. Californie, Japon, Australie. Climatisation, climatisation, climatisation.
Une question sur vous. Quel est l'acheteur Enercop EDF? Le prix lui-même, il est fixé par l'État?
Tout à fait. Dans le cas de l'obligation d'achat, il est fixé. Par contre, dans le cas de l'autoconsommation, c'est le kilowattheure qu'on évite de consommer. Donc si on est client Enercop et on paye 16, c'est ça? Ou si on est à EDF et on paye 14, mon kilowattheure n'est pas rémunéré au même niveau. Ou si je suis en tarif vert ou tarif jaune, et toute taxe confondue, je paye 13 centimes, mais ce n'est pas le même que si je suis un gros consommateur industriel et que je paye 4 centimes. C'est en fonction du coût à laquelle j'achète. Donc l'autoconsommation, résidentielle, maison individuelle, tout électrique, il y a beaucoup de points de vigilance. Par contre, il y a des endroits où c'est plus intéressant. Les bâtiments de bureau à très faible consommation d'énergie, donc typiquement tous les nouveaux bâtiments d'Ecos, toutes les nouvelles constructions des collectivités locales qui doivent être NZ, directive européenne, on est très souvent dans cette configuration, avec un handicap majeur derrière, qui est qu'une école, il est fermé l'été, pas de consommation sur site, donc la consommation c'est aussi très compliqué dans ces contextes. Par contre, ta sœur, un patron de logistique avec ce les centres commerciaux envers un pont d'arc, il faut qu'ils sautent dessus. C'est clair. L'autoconsommation, ça leur évite d'avoir à faire des dossiers très compliqués pour répondre à l'appel d'offres. Ils paient probablement les kilowattheures déjà entre 10 et 13 centimes d'euros le kilowattheure. Ils ont un talent de consommation permanente l'été qui correspond parfaitement à la production photovoltaïque. Il faut y aller. L'autoconsommation, oui, mais avec raison et dans les bons bon contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de l'autoconsommation aujourd'hui? C'est parce que depuis 4 ans, 5 ans, les tarifs d'achat baissent, et surtout sur le secteur 9 à 100 kW crête, les tarifs d'achat ils sont bas pour faire des réalisations confortablement, voire même pour déclencher des investissements. Donc, on a dit, on va tourner vers autre chose, et on a un peu vu l'autoconsommation comme ça, comme sauveur de la filière. Encore maintenant, qu'on a la suppression des tarifs d'achat pour les installations supérieures à 100 kW et l'obligation de passer par un appel d'offres. C'est compliqué. Ça demande, il y a un élément de risque, on n'est pas sûr d'être retenu. Donc l'autoconsommation, dans ces contextes, c'est quelque chose où on enlève une partie du facteur de risque. Il y a encore un facteur de risque parce qu'il faut bien connaître l'autoconsommation, mais voilà. On peut en faire quand on a une synchronisation de production et de consommation. La clim, je vous ai dit, mais c'est pas tout à fait vrai parce que le profil de consommation de la clim, une journée type, c'est plutôt ça, alors que le PV, c'est plutôt ça. Donc il n'y a pas tout à fait concordance parce que la clim, les gens ne sont pas tellement à la maison à midi, c'est plutôt à partir de 16h, 18h. Dans les zones où on a besoin de clim, où il va être mis en route. Ça, c'est le clim gérer les anciennes. Après, le clim en entreprise, c'est autre chose. Pardon ?
Chez nous, je ne sais pas, je le laisse toute la journée, la clim aussi.
Normalement, il a un thermostat, donc il a un thermostat. Donc,
non, j'en sais pas sans ça. Je n'en chauffe pas, je peux vous dire que ce n'est pas facile.
On peut aller de plus vers l'autoconsommation parce qu'on a des équipements de pilotage qui sont plus ou moins opérationnels, mais qui permet de décaler les consommations pour essayer d'avoir une convergence dans les courbes de consommation et de production. Et parce qu'on peut éviter des coûts de raccordement élevés. Je reviendrai à cette transparence.